Lettre 201 de Madame de Sévigné au comte de Bussy. À Paris, ce 18 décembre 1678. Ô gens heureux, ô demi-dieu, si vous êtes au-dessus de la rage de la bassette, si vous vous possédez vous-même, si vous prenez le temps comme Dieu l'envoie, si vous regardez votre exil comme une pièce attachée à l'ordre de la Providence, si vous ne vous retournez point sur le passé pour vous repentir de ce que vous fîtes il y a 30 ans, si vous êtes au-dessus de l'ambition et de l'avarice, enfin, ô gens heureux, ô demi-dieu, si vous êtes toujours comme je vous ai vu, et si vous passez paisiblement votre hiver à Autun avec la bonne compagnie que vous me marquez. Notre ami Corbinelli vous écrit dans ma lettre. Monsieur le cardinal de Retz, le plus généreux et le plus noble prélat du monde, a voulu lui donner une marque de son amitié et de son estime. Il le reconnaît pour son allié, mais bien plus pour un homme aimable et fort malheureux. Il a trouvé du plaisir à le tirer d'un état où Monsieur de Vardes l'a laissé, après tant de souffrances pour lui et tant de services importants. Et enfin, il lui porta avant-hier 200 pistoles pour une année de la pension qu'il veut lui donner. Il y a longtemps que je n'ai eu une joie si sensible. La sienne est beaucoup moindre. Il n'y a que sa reconnaissance qui soit infinie. Sa philosophie n'en est pas ébranlée. Et comme je sais que vous l'aimez, je suis assurée que vous serez aussi aise que moi. Pour en revenir à la bassette, c'est une chose qui ne se peut représenter. On y perd fort bien 100 000 pistoles en un soir. Pour moi, je trouve que passer ce qui peut se jouer d'argent comptant, le reste est dans les idées et se joue au raki comme font les petits-enfants. Le roi paraît fâché de cet excès. Monsieur a mis toutes ses pierreries en gage. Vous aurez appris que la paix d'Espagne est ratifiée. Je crois que celle d'Allemagne suivra bientôt. La pauvre belle comtesse est si pénétrée de ce grand froid qu'elle m'a prié de vous faire ses excuses et de vous assurer de ses véritables et sincères amitiés et à Madame de Coligny. Sa poitrine, son encre, sa plume, ses pensées, tout est gelé. Elle vous assure que son cœur ne l'est pas. Je vous en dis autant du mien, mes chers enfants. Quand je veux penser à quelque chose qui me plaise, je songe à vous deux. Je vis l'autre jour ma nièce de Sainte-Marie. Au travers de cette sainteté, on voit bien qu'elle est votre fille. Mais hélas, que dites-vous de l'affliction de Monsieur de Navailles, qui perd son fils d'une légère maladie, après l'avoir vu exposé 1000 fois aux dangers de la guerre? La prudence humaine qui faisait amasser tant de trésors et faire de si grands projets pour l'établissement de ce garçon me fait bien rire quand elle est confondue à ce point-là. Je vous demande beaucoup d'amitié pour Monsieur Jeannin de ma part. Monsieur de Corbinelli, j'ai vu un mot de vous, monsieur, qui m'a fait un grand plaisir. Si j'écoutais mon enthousiasme, je vous écrirais une grosse lettre de remerciement, c'est-à-dire que, par l'emportement de ma reconnaissance, je tomberais dans l'ingratitude, car c'est ainsi qu'on doit appeler une grosse lettre de moi. Mon Dieu, que je conçois bien le plaisir qu'il y aurait d'être entière avec vous et Madame de Coligny et d'y parler à cœur ouvert auprès d'un grand feu à Chazeux. J'irai un jour et je me promets à moi-même cette satisfaction, car vous savez que c'est toujours soi qu'on cherche à satisfaire sur toute chose et qu'il n'y a véritablement qu'une passion qui est l'amour-propre. Je me propose d'examiner avec vous deux bien des choses et de vous inspirer un sentiment de mépris pour l'approbation du public sur bien des gens qui ne la méritent pas. J'aime à examiner même les choses qui me plaisent afin de voir si je ne me suis point trompé. Je vous demande que nous fassions ensemble la même démarche. Nous parlerons de la cour, de la guerre, de la politique, des vertus, des passions et des vices, en honnêtes gens. Au reste, je me suis avisé de faire des remarques sur 100 maximes de Monsieur de La Rochefoucauld. J'en suis à examiner celle-ci. La bonne grâce est au corps, ce que le bon sens est à l'esprit. Je demande à votre tribunal si elle est facile à entendre et quel rapport ou proportion il y a entre bonne grâce et bon sens. Je trouve qu'on se sert de mots dans la conversation qui, étant examinés, sont ordinairement équivoques et qui, à force de les sasser, ne signifient point, dans la plupart des expressions, ce qu'il semble à tout le monde qu'ils doivent signifier. Par exemple, je demande à Madame de Coligny qu'elle me définisse la bonne grâce et qu'elle me marque bien la différence avec le bon air. Qu'elle me dise celle de bon sens et de jugement, celle de raison et de bon sens, celle de bon esprit et de bon sens, celle de génie et de talent, celle de l'humeur, du caprice et de la bizarrerie, de l'ingénuité et de la naïveté, de l'honnêteté, de la politesse et de la civilité, du plaisant, de l'agréable et du badin. Ne vous amusez pas à me dire que ce sont la plupart des synonymes. C'est le langage ou des paresseux ou des ignorants. Je suis prêt à définir tout, bien ou mal, il n'importe. Faites la même chose, je vous en prie. Que dites-vous de la vente de notre charge? C'est le roi qui l'achète. Il n'en veut donner que 600 000 francs. On dit cependant que Tillade l'aura et que le chevalier Colbert aura celle de Tillade. Oh gens heureux! Oh demi-dieux!